Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Top Music.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
Ce qui est fascinant dans notre métier, c'est de préparer l'inconnu, en fait. Alors, il est certain qu'on nous appelle rarement quand tout va bien. On effectuera nos missions, quoi qu'il arrive. Un feu, en 30 secondes, on l'éteint avec un verre d'eau. Une minute après, il faut un extincteur. Et deux minutes après, il faut un camion incendie.
Sur le podium, j'ai la grande chance de recevoir un homme courageux dont le métier fait rêver les enfants. Il s'appelle Valentin. Il s'est engagé comme sapeur-pompier à 23 ans. Aujourd'hui officier, il nous raconte son quotidien et les missions qui l'ont marqué. Courage et dévouement est la devise des sapeurs-pompiers, un engagement que ces hommes mettent en pratique en toutes circonstances. Toujours prêts à faire face, les sapeurs-pompiers sont des hommes hors du commun qui forcent l'admiration. Alors Valentin, devenir pompier, c'était vraiment un rêve d'enfant ?
Bonjour Caroline. Alors, pour répondre à cette question, bien non, ce n'a pas toujours été un rêve d'enfant de devenir sapeur-pompier. Pour moi, ça a été une vocation qui est née plus tard. Je n'avais pas la petite voiture rouge posée sur l'étagère étant petit.
Mais comment vous est venue l'idée alors ? Comment vous vous êtes dit un jour, je vais devenir pompier ?
Alors, c'est une carrière qu'on embrasse par conviction. C'est la volonté de servir. C'est la volonté d'exercer des gestes techniques.
Mais ça, vous ne le savez pas au départ. Qu'est-ce qui vous faisait rêver ? Qu'est-ce qui vous attirait ?
On ne le sait pas, mais quand on commence à s'intéresser à ce métier, on s'aperçoit vite qu'en fait, on est au service de la population en mettant en œuvre des techniques et des outils qui sont assez spécifiques. Et donc, cette envie, en fait, m'est venue plus tard. Au lycée, j'avais plus envie de devenir astrophysicien, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec les sapeurs-pompiers, effectivement. Et le sport, l'activité physique m'ont plu dès le plus jeune âge. J'ai très vite su que je voudrais faire un métier qui associerait compétences, un certain niveau de compétences scientifiques et activité physique.
D'accord, donc l'activité physique, c'est important dans le métier de sapeur-pompier ?
Ah bien sûr, oui, c'est une partie intégrante de notre profession. On doit être en bonne forme tout le temps, toute l'année, et ce, pendant plusieurs années d'exercice.
Alors donc, quand vous êtes au lycée, vous choisissez quoi comme études finalement ?
Alors quand je suis au lycée, se pose un dilemme entre tout ce qui est études scientifiques et l'activité physique. Et donc du coup, j'ai choisi de faire des études supérieures en sciences et techniques des activités physiques et sportives en STAPS à l'Université de Strasbourg, qui étude qui à la fois alliée compétences scientifiques et activité physique.
D'accord. Mais donc au départ, pas forcément pour être sapeur-pompier.
Non, alors j'avais une petite idée derrière la tête à l'époque déjà, mais ces études cochaient beaucoup de cases en fait à l'époque sur mes choix et mes aspirations.
Et donc, il y avait quoi comme orientation possible à ce moment-là, dans votre tête ? Quand vous faisiez vos études,
Oui, bien, en général, on fait STAPS pour soit devenir prof de sport, soit kiné, soit... Ça dépend, il y a plusieurs filières, en fait, dans ce cursus post-bac, et notamment celui de devenir officier de sapeur-pompier. Donc, c'est ce que je visais aussi à l'époque.
D'accord.
C'était de passer le concours d'officier de sapeur-pompier après l'obtention de ma licence en STAPS.
Alors, sapeur-pompier, c'est aussi cette idée de servir, de sauver. Il y a un côté très humaniste. Vous l'aviez déjà petit, ça, ou ça s'est développé lorsque vous êtes rentré chez les sapeurs-pompiers ? Parce qu'on prend quand même à son compte une grande partie du malheur de la population. Et puis... tous les jours, on se remet en selle pour aller sauver des gens. Enfin, c'est comme ça que je le vois.
Alors, je pense que la vocation de servir, l'altruisme, l'esprit d'équipe, l'engagement sont des valeurs partagées par tous les sapeurs-pompiers, hein, c'est sûr. Et alors, de là à dire que je l'avais tout petit, ça, je saurais pas trop faire de rétrospective sur cet aspect-là de ma jeunesse. Néanmoins, oui, je pense qu'effectivement, ce sont des valeurs auxquelles j'adhérais. Et qui m'ont fait choisir cette voie, tout à fait.
C'est ça, vous auriez pu être infirmier. Il fallait le côté physique.
C'est vrai qu'il y a au niveau des technicités aussi, hein, dans les gestes et dans le matériel. Néanmoins, c'est le côté terrain aussi qui m'intéressait.
D'accord.
Le côté, lorsque les pompiers interviennent, bien, c'est que plus grand monde derrière peut intervenir. On appelle les pompiers en dernier recours.
Ah, en dernier recours, je pensais qu'on appelait les pompiers en premier, en fait.
Ah non, parce que nos missions sont le secours et l'assistance d'urgence, et on insiste bien là-dessus. Et donc, toutes les situations qui peuvent se régler, soit par nous-mêmes, soit via d'autres professionnels, comme par exemple un serrurier ou une société de traitement contre les nids de guêpes, bien, il y a des professionnels pour ça. Mais par contre, nous, c'est vraiment l'urgence et le dernier recours.
D'accord. Mais bon, j'aurais envie de dire que lorsqu'on a un souci, mon chat est dans un arbre, c'est toujours les images d'Épinal.
Bien sûr.
Finalement, j'appelle les pompiers. On a l'impression que les pompiers, c'est ceux qui vont nous aider à tout dans la vie.
Oui, alors c'est vrai que nos missions sont très diversifiées. Hein. Nos missions, c'est par exemple, comme je vous l'ai dit avant, le secours d'urgence aux personnes, c'est l'incendie, c'est le secours routier. On fait des opérations diverses aussi. Hein. Quand je dis fait, c'est que l'on intervient sur des opérations diverses qui vont effectivement de l'aspiration d'eau dans la cave lorsqu'on a une inondation je sais que moi j'ai déjà couru après un bouc à la Robertsau un dimanche matin, situation parfaitement incongrue.
Parce qu'il s'était sauvé ?
Ah oui, il s'était sauvé, il avait échappé à son propriétaire. En fait, on ne savait pas trop à qui il
appartenait. Ah donc vous voyez, on appelle quand même les pompiers pour un oui, pour un non.
Alors on essaye d'appeler les pompiers, surtout quand il y a une notion d'urgence. Alors là, le bouc dans les rues, c'est comme le chat dans l'arbre, en fait. Oui, l'urgence. Ouais. Non, l'urgence peut être aussi remplacée par le fait que nous seuls puissions intervenir sur ce genre de situation.
Alors, vous faites donc ces études pour devenir officier des sapeurs-pompiers. Donc, on passe des diplômes, comment ça se passe ?
Vous
faites des concours, comment on devient sapeur-pompier ?
Alors, il faut savoir qu'avant de devenir sapeur-pompier professionnel, pendant mes études de STAPS, je me suis engagé comme sapeur-pompier volontaire. J'ai contracté un engagement citoyen en devenant sapeur-pompier volontaire dans ma commune. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie d'embrasser cette carrière de sapeur-pompier professionnel plus tard. Et avant de devenir officier, j'ai passé le concours d'homme du rang de sapeur-pompier, professionnel donc, à la suite de ma licence en STAPS. Je suis resté 8 ans sapeur-pompier.
Donc homme du rang, ça veut dire quoi ?
Homme du rang, ce sont les hommes de terrain qui vont intervenir sur toutes les missions. Qu'on a cité précédemment, donc le secours d'urgence aux personnes, l'incendie, les opérations diverses.
Donc là, c'est vraiment action.
On est vraiment dans
action.
Les camions, sur le terrain.
Action.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Action, mais qui ne dispense pas d'un haut niveau de formation et de technicité. Hein,
oui, bien sûr. Il y a une musique qui vous rappelle un peu cette époque de concours d'études, avant d'embrasser cette carrière.
Pendant la période lycée, Ellie Goulding.
Alors, donc, des belles études, au final, beaucoup de terrain, beaucoup de sport, hein, j'imagine, beaucoup de sport.
Beaucoup de sport.
C'est quoi le quotidien d'un homme de rang, puisque vous avez appelé ça comme ça ?
D'un homme du rang.
Un homme du rang, pardon.
Alors, nous, les sapeurs-pompiers professionnels, donc, nous sommes en caserne, nous sommes de garde en caserne, en centre d'incendie et de secours. Et donc, on a des jours des types. On a des journées types qui débutent par la vérification du matériel pour être bien sûr que tout le matériel soit prêt à l'intervention dès que l'on prend son poste. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Quand bien même on sait que les collègues d'avant ont reconditionné tout le matériel, c'est important pour nous de nous-mêmes le vérifier, de
D'accord.
façon à être certain des capacités.
La caserne, c'est H24.
C'est H24, oui. C'est H24, tout comme les services des sapeurs-pompiers, 365 jours par an, H24, que ce soit un 25 décembre, un 14 juillet, on sera toujours prêt à partir en intervention.
Donc vous dormez là-bas, vous mangez là-bas, enfin vous vivez là-bas.
On vit là-bas, tout simplement. Et alors, à Strasbourg, notre régime de travail est ce qu'on appelle du 24-48. Donc on est 24 heures de garde en centre d'incendie et de secours, en caserne, et 48 heures de repos. Et parfois, il nous faut ces 48 heures pour récupérer d'une garde très intense pendant laquelle on n'a pas pu se reposer ou on a eu des interventions très physiques.
Très intenses physiques et émotionnelles, j'imagine.
Et émotionnelles, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, pour terminer sur l'emploi du temps au quotidien, on fait des vérifications, on a de l'activité physique, du sport programmé, nous avons aussi des manœuvres.
Donc, des entraînements.
Des entraînements, tout à fait, qui vont de la course à pied, du footing de 10-12 km jusqu'à l'entraînement vraiment spécialisé à manipuler des lances, à travailler avec nos combinaisons de feu, nos appareils respiratoires, nos bouteilles d'oxygène, nos bouteilles d'air comprimé qu'on a sur le dos.
Ça pèse combien une tenue ?
Alors, elles se sont allégées au cours du temps. Avant, on avait les cuirs qui étaient assez volumineux et lourds. Néanmoins, aujourd'hui, un équipement complet pour aller sur incendie, on l'estime à peu près une dizaine de kilos. Sachant que derrière, on a aussi tout le matériel d'extinction, les tuyaux, les lances, les outils pour casser des portes,
ouais.
Les échelles, tout ce matériel qui alourdit les intervenants. C'est bien la raison pour laquelle on doit, d'une part, être prêt physiquement à tout moment et être au fait des dernières techniques et connaître nos matériels sur le bout des doigts.
Donc, vous êtes en formation permanente ? Il y a tout le temps des formations ?
On est en formation permanente, que l'on soit professionnel ou volontaire. Le statut ne diffère pas.
Donc, un pompier volontaire dont ce n'est pas le métier, il est au même régime que vous ?
Au même régime.
C'est-à-dire qu'il va s'entraîner aussi tous les jours, il va être formé,
il sera formé aux mêmes outils, aux mêmes techniques, il fera les mêmes interventions. Seulement, sa disponibilité, parfois, le contraindra en termes de volume de formation. Là, effectivement, on demande un certain volume de formation à tout pompier, professionnel volontaire. Mais il est évident que pendant 24 heures en centre d'incendie de secours, on a plus le temps de manœuvrer.
Parce que lui, il n'est pas de garde comme vous, le pompier volontaire ?
Alors, la plupart des sapeurs-pompiers volontaires sont d'astreinte. C'est-à-dire que chez eux ou sur leur lieu de travail, ils exercent une activité professionnelle ou font des études et peuvent être appelés, en complément de cette activité, peuvent être appelés sur intervention.
D'accord. Ils sont bénévoles ?
Ils ne sont pas bénévoles, non. Ils sont sapeurs-pompiers volontaires, pardon. C'est-à-dire qu'ils sont indemnisés au titre de leur mission. Ils touchent une indemnité.
À chaque fois qu'ils font une mission ?
À chaque fois qu'ils font une mission, oui,
tout à fait. Mais le reste du temps, quand ils s'entraînent, quand ils sont d'astreinte, quand ils sont etc., là, on peut dire qu'ils sont bénévoles, en fait.
Oui, alors, globalement, le statut indemnisé ou pas, en fait, n'est pas très important dans l'engagement qu'on prend en tant que volontaire. Il faut savoir que c'est un engagement citoyen, et pour lancer un appel...
Il en faut toujours. Et j'étais assez impressionnée parce qu'il y a plus de pompiers volontaires que de pompiers professionnels.
Oui, vous avez raison, oui, tout à fait. On est plus de pompiers volontaires que de professionnels. Alors, dans le Bas-Rhin, comme en France, la situation est à peu près la même. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans le département du Bas-Rhin, nous sommes 650 professionnels et 4300 volontaires.
C'est incroyable.
Alors, oui, c'est un chiffre qui paraît assez grand. Tous les ans, on recrute 300 sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, il y a une rotation des effectifs. Et donc, c'est très important pour nous de maintenir ce niveau de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.
Parce qu'on ne reste pas longtemps sapeurs-pompiers volontaires ?
Si, on a des personnels dans nos rangs qui ont plusieurs dizaines d'années d'ancienneté, qui sont tout à fait qui sont encore opérationnels. Hein.
D'accord. Oui. Et bon, on reviendra sur le sapeur-pompier volontaire. Revenons sur votre journée type de sapeur-pompier professionnel.
Alors, une fois que les vérifications, que l'activité physique sont passées, nous devons aussi entretenir nos locaux, tout simplement. Donc, faire ce qu'on appelle du casernement, de façon à maintenir nos locaux dans un état de propreté et d'accueil qui soit compatible avec une vie en caserne, tout simplement.
Il y a des gens qui viennent à la caserne ? Vous accueillez du public ?
Alors, du public, non, on ne peut pas rentrer comme ça dans un centre d'incendie et de secours, surtout depuis quelques temps, on l'aura noté, du fait des contraintes sanitaires. On a à cœur, bien sûr, de partager au maximum notre métier avec du public, comme par exemple des écoles, certains stagiaires, faire découvrir comment on vit, comment on travaille à la population. C'est aussi important pour nous.
Et donc vous faites tout seul, vous faites à manger, vous faites votre ménage, vous faites votre lessive, j'en sais rien.
On lave notre linge sale, hein, tout seul. Non, oui, on fait tout seul. Alors, bien sûr, on bénéficie de services support, tout ce qui est maintenance des engins, tout ce qui est certains nettoyages des locaux assez spécifiques, certaines tâches administratives, voilà, les ressources humaines, tout ça, ce sont d'autres gens qui le font. La garantie de propreté et de bon fonctionnement du centre est assurée par les sapeurs-pompiers.
Oui. D'accord. Et donc alors, ça sonne, il y a la sirène, hein, on imagine ça, on voit ça dans les films.
Ben, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Alors là, déjà, il faut savoir qui part, sur intervention. Ce
que c'est mais ça, vous l'avez décidé avant, j'imagine.
Oui. Tout ça, c'est réparti avant. On réalise ce qu'on appelle la répartition de la garde, c'est-à-dire qu'on affecte sur un engin les personnels désignés.
Alors, il y a ceux qui conduisent, il y a ceux qui, etc. Ça, c'est désigné à l'avance?
C'est désigné à l'avance. Alors, on tourne en fonction des qualifications.
Tout le monde est capable de faire toutes les tâches?
Tout le monde n'est pas capable de faire toutes les tâches. Par exemple, quelqu'un qui vient de rentrer comme sapeur-pompier ne sera pas conducteur de la grande échelle, par exemple.
D'accord.
Faut quand même un certain niveau d'expérience et de technicité de connaissances, et certains stages aussi, bien sûr, pour accéder à ces fonctions. Voilà, la répartition de garde se fait sur cette base de compétences et de tours, en fait, ce qu'on appelle les tours. Et donc, du coup, quand ça sonne, déjà, il faut savoir ce sur quoi on part, si c'est un secours d'urgence aux personnes, si c'est un incendie, une opération diverse, ou une opération spécialisée, d'ailleurs. Prendre le maximum de renseignements à la caserne, au départ, parce que c'est souvent là qu'on gagne du temps aussi. Et ensuite, on s'habille pendant ce temps-là, on se prépare. Dans la tête, on est déjà dans l'intervention. Et après, on y va, c'est parti, on allume le gyro, on sort les engins et on va sur les lieux d'intervention.
Et donc, vous avez un timing à respecter pour être prêt? Il y a une espèce d'organisation, d'entraînement pour que ça aille vite?
On essaye d'être le plus rapide possible. On ne va pas donner de temps, puisque effectivement, il n'y a pas de temps qui est inscrit sur le marbre. Mais de toute façon, on sera toujours le plus rapide possible, que l'on soit prêt en tenue, que l'on soit sous la douche ou que l'on soit en train de faire du sport. On aura cette même rapidité pour sortir nos engins. C'est vraiment une priorité pour nous de toujours rester disponible.
Donc, ça sonne, vous lâchez tout?
Ah oui.
La fourchette, la douche, les haltères, et hop,
même si
vous sautez dans votre combinaison, c'est ça?
Même si on cuisine très bien et que c'est parfois dur de lâcher la fourchette. Non, mais bien sûr, oui. L'intervention est toujours quelque chose à laquelle la disponibilité opérationnelle est toujours quelque chose à laquelle on veille, quelque chose à laquelle on met en priorité par-dessus tout le reste. Le sport, bien sûr, bien entendu.
On lâche tout et on y va.
On lâche tout et on y va. Toujours dans... Alors, c'est pas de la précipitation, attention. On sait ce qu'on fait, on est entraîné pour ça, on est formé pour ça. Parfois, il faut passer la deuxième.
Et donc, c'est assez surprenant. J'avais interviewé une personne du RAID. C'est toujours cette idée d'être prêt, c'est-à-dire de s'entraîner au cas où. C'est-à-dire que vous vous entraînez pas comme un athlète avec un objectif de faire, un record ou quelque chose comme ça, mais au cas où on m'appelle, je dois être prêt. Donc, c'est un entretien physique permanent.
Exactement, et c'est ce qui est fascinant dans notre métier, c'est de préparer l'inconnu, en fait. C'est de s'entraîner, de se former pour quelque chose qui, alors on ne peut pas dire n'arrivera jamais, mais c'est ce qu'on souhaite à la population,
oui, bien sûr.
Évidemment. Néanmoins, il faut que les intervenants, les pompiers, soient prêts à toute heure, à tout moment, et s'entraînent pour ça, et pour quelque chose qui peut-être n'arrivera pas pendant la garde ou plus tard.
Ouais, c'est ça qui est fou, c'est qu'il faut quand même mentalement se dire que voilà, je fais quelque chose au cas où.
On n'a pas d'échéance, mais on a...
Parce que peut-être vous n'avez pas envie d'aller courir, il fait froid, peut-être que, je ne sais pas moi, on n'est pas toujours motivé. Qu'est-ce qui fait que vous restez motivé, que vous restez en forme, que vous restez toujours sur le qui-vive?
Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a tout d'abord la volonté d'être en meilleure forme possible sur intervention. Il y a aussi l'esprit d'équipe.
Donc, il y a un encadrement quand même qui est extrêmement sévère pour que tout le monde soit au top, quoi.
Alors, sévère pour que tout le monde soit au top, je dirais pas. Le principal, c'est de se sentir à l'aise dans son corps pour exercer une mission. Je dis bien pour exercer une mission, et pas juste pour faire 100 mètres de marche, mais vraiment pour exercer une mission. Pouvoir manipuler nos matériels avec le plus de sécurité possible et pouvoir parvenir à réaliser les missions qui nous sont demandées. Parce qu'évidemment, monter au 8e étage à 2h du matin avec le matériel d'extinction, pouvoir enfoncer une porte blindée parce que c'est dans un immeuble, l'accès est difficile, et faire un sauvetage derrière demande des capacités physiques, mais aussi un esprit d'équipe. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs. C'est pour ça que jamais on ne sera seul face à une difficulté. On sera toujours à 2, à 4, de façon à pouvoir être ensemble, parvenir ensemble à effectuer notre mission.
Et justement, alors cet esprit d'équipe, il faut s'entendre, vous êtes amis, c'est une fratrie, comment ça fonctionne?
Eh bien, il y a bien sûr un esprit d'équipe fort qui se dégage. On est amis, on sort ensemble en dehors de la caserne. Et après, forcément, on ne peut pas s'entendre tout le temps avec tout le monde, hein, que ce soit en tant que pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire. Néanmoins, la difficulté des missions forge une certaine fraternité ou sororité, hein, bien sûr, puisqu'on est mixte, hein, il n'y a pas que des hommes. C'est cette émulation qui, sur intervention, peu importe nos différends, peu importe nos relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on est tous ensemble dans la même mission pour l'accomplir.
Une fois qu'on a la tenue, on est ensemble.
Ah oui, bien sûr, oui.
Alors, vous parliez des femmes, il y a combien de pourcentage de femmes je prends dans votre caserne, par exemple, mais sinon, en général, si vous le savez, sur les pompiers,
oui,
en général.
Oui, alors, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près un sapeur-pompier en France sur 6 qui est une femme. Donc, ça fait à peu près 800-820 sapeurs-pompiers féminins dans le département du Bas-Rhin.
D'accord. Et les femmes, la formation est identique, c'est-à-dire une fois que vous avez la tenue, homme ou femme, qu'importe?
Ah oui, tout à fait. Il n'y a aucune distinction qui est faite sur intervention entre un homme, une femme, un pompier volontaire, un pompier professionnel. Les personnels féminins ont les mêmes formations, ont les mêmes qualifications, ont les mêmes responsabilités.
Elles doivent pouvoir porter la lance, le poids, etc., de la même façon.
Oui, oui, tout à fait. Voilà, il y a juste quelques barèmes au recrutement qui sont adaptés, évidemment, voilà, tout ce qui concerne l'endurance. Mais sinon, c'est exactement la même chose partout. J'en profite d'ailleurs pour également lancer un appel concernant toutes les femmes qui se demandent si elles peuvent devenir sapeurs-pompiers. Oui, oui, on peut, on recrute. Et c'est avec plaisir qu'on les accueillera dans nos rangs.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une musique parfois à la caserne? Vous écoutez de la musique?
Oui, on écoute de la musique. J'ai une musique qui se rapproche plus de ma formation de sapeur-pompier quand on était des jeunes fous, à être un groupe pendant la formation. Et au début de ma carrière, c'est la musique qui me fait penser à ça, c'est la musique d'ACDC, It's a Long Way to the Top.
Déménage.
Voilà.
Alors, racontez-moi un petit peu quand vous, justement, cette confiance, cette fraternité, ce besoin des autres, est-ce que c'est pas compliqué quand il y a des pompiers volontaires et des pompiers professionnels? Comment vous vous mélangez? Parce que vous les connaissez pas forcément, les pompiers volontaires.
Oui, oui, non, bien sûr. Et puis même lorsque on intervient sur des grosses opérations avec d'autres personnes, d'autres casernes, on se connaît pas.
Mais
forcément,
oui.
Tout à fait, mais ça... Si vous voulez, il y a sur intervention, encore une fois, on a un objectif, une mission, et là, il n'y a plus de statut, de connaissance, de qui compte, c'est on est tous là pour la même mission, on l'exerce du mieux possible, et on sera toujours là pour aider un collègue dans la difficulté.
D'accord. Alors, dites-moi également, vous avez des particularités, des spécialités, il y a les plongeurs, quelles sont les spécialités chez les pompiers ?
Alors, sans faire une liste exhaustive des spécialités qu'on a, en gros, on a tout ce qui est spécialité de risque chimique, spécialisé dans tout ce qui est accident technologique, industriel, risque chimique, risque radiologique. Nous avons les plongeurs, comme vous l'avez dit, tout à fait. On a la spécialité de feu de forêt. Mm-hmm. On a la spécialité de grimpe, ce qu'on appelle le grimpe, le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux.
C'est quoi le grimpe, alors?
Tout ce qui est intervention en hauteur.
Ah, OK.
Ou voilà, en excavation, ou en fait... Le milieu, la hauteur du milieu fait que nos matériels classiques arrivent au bout de leurs possibilités.
Donc c'est presque des alpinistes alors ?
C'est les bons grimpeurs, oui,
ouais.
C'est sûr.
D'accord.
Et puis voilà, tout ce qui est aussi, j'en ai parlé, le risque feu de forêt qui deviendra...
Donc là, vous développez des formations spécifiques à ce moment-là. J'imagine que le plongeur et le grimpeur, ils n'ont pas forcément la même formation ?
Oui, tout à fait, oui. Ce sont des formations tout à fait spécifiques. pour des missions qui le sont tout autant.
Et quand vous êtes de garde, il y a forcément un plongeur de garde, un grimpeur de garde, enfin, alors, chaque spécialité est représentée,
tout
c'est ça?
Tout à fait, oui. À 24 heures sur 24, toutes les spécialités sont en mesure de déployer des moyens d'insurintervention, quel que soit l'endroit du département.
Et vous, votre spécialité?
Alors moi, j'ai été sapeur-pompier plongeur.
D'accord. Donc plongeur, c'est-à-dire que finalement, vous faites quoi? Vous allez chercher quoi au fond de l'eau?
On ne sait pas toujours ce qu'on va chercher. Non, on intervient pour tout ce qui est sauvetage de personnes, secours à personnes, globalement en milieu hyperbare. Donc 99% du temps, c'est sous l'eau, hein, bien évidemment.
Ouais. Donc c'est quoi? C'est des gens qui se noient?
C'est des gens qui tombent à l'eau dans l'île. Ce sont des plongeurs en club qui ont un accident de décompression. Ça peut être une voiture qui tombe à l'eau, avec des personnes dedans qui n'arrivent pas à se dégager tout de suite. C'est la raison pour laquelle on doit intervenir le plus rapidement possible et dans des conditions parfois très défavorables. Ces missions, donc c'est ce secours d'urgence aux personnes, c'est de la recherche aussi parfois de corps, c'est de la réquisition sur demande de gendarmerie ou de police, c'est recherche d'objets qui ont servi sur le lieu d'un crime, ce genre de choses, quoi.
Il faut avoir le cœur bien accroché quand même pour ce métier, parce que vous devez voir des choses compliquées.
Alors, il est certain qu'on nous appelle rarement quand tout va bien, et notre quotidien, nos missions, c'est vraiment intervenir dans la souffrance, les cris et les larmes. Hein. C'est sûr qu'on voit des choses pas toujours très sympas. On est formé pour ça, on est équipé pour ça.
Donc, vous êtes formé, c'est-à-dire que vous avez des psychologues, vous met en situation. Est-ce qu'on teste votre capacité à résister à des situations extrêmes comme ça? Je pense plutôt psychologique que physique.
Alors, on teste plusieurs choses. Hein. Après, la capacité psychologique à supporter le quotidien, c'est plus des choses qu'on se construit nous-mêmes. C'est vu en formation, bien sûr. Et en formation, on nous apprend avant tout que c'est l'esprit de groupe. Et l'empirisme, c'est-à-dire la succession des interventions qui fera notre force de
l'expérience,
simplement. Mais aussi, je pense qu'on se construit tous des sas de décompression après l'intervention, au retour de la caserne, quand on quitte le travail.
Vous débriefez tous ensemble?
Alors oui, on débrief. Mais il faut savoir que sur intervention, on se rend jamais compte de l'intensité émotionnelle de la situation. C'est souvent après l'intervention qu'on se dit « ouais, oula, là c'était quelque chose ». Et là, on se met ensemble, on débrief. Et si vraiment il y a quelque chose de majeur, un souci majeur, on a bien évidemment des équipes de psychologues, de soutien au personnel affecté. Je sais que j'avais un sas de décompression, c'était de rentrer à vélo tous les matins, après ma garde, donc qui finissait 24 heures après, donc à 7h30 du matin, de rentrer à vélo, ça me vidait l'esprit, ça me faisait penser à autre chose. C'est pas que j'oubliais ma garde, mais disons que je redevenais civil, je redevenais Valentin, et je n'étais plus le caporal.
Et on arrive à vraiment redevenir civil, c'est-à-dire si maintenant vous êtes à vélo, vous rentrez chez vous et vous voyez, j'en sais rien, un accident, un enfant qui tombe ou n'importe, vous redevenez pompier?
Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, à ce propos, il ne faut pas attendre d'être pompier pour aider quelqu'un qui tombe dans la rue. Hein. Là, c'est un petit message que je souhaite passer. Si on veut être citoyen, c'est aussi aider le petit papy à traverser la rue. C'est aussi voir quand quelqu'un tombe ou fait un malaise, c'est de voir ce qui se passe. Ça, c'est un geste citoyen, que l'on soit pompier ou non.
Je suis d'accord, mais vous, c'est votre métier. Est-ce que vous arrivez à enlever la panoplie vraiment quand vous êtes en dehors de la caserne?
On aura peut-être un regard différent sur certaines situations, bien sûr, plus professionnel, on va dire, plus aguerri, c'est sûr, vu que c'est notre métier ou notre activité. Je trouve qu'on arrive assez bien à faire la part des choses entre le métier et la vie privée.
Et la vie privée. Oui. Et donc, sur votre vélo, vous écoutez une petite musique, parfois?
Tout à fait. Alors, il y en a plein qui me viennent. Il y avait Puccini, Muse, The Villagers. Mais j'ai retenu Coldplay, Midnight.
Donc ça vous aide à changer un petit peu, de changer votre esprit et à revenir dans une vie plus normale, on va dire. Alors justement, quand on est pompier, on doit avoir des choses incroyables. Il y a une intervention qui vous a particulièrement marqué, vous pourriez nous partager ?
Alors oui, il y a une intervention.
Ou plusieurs, hein.
Oui, alors il y a, comme je vous l'ai dit avant, mais c'est sûr qu'on voit du sang, des larmes et de la souffrance.
On a l'impression que c'est de pire en pire. Comment vous diriez depuis que vous êtes rentré
Alors de pire en pire, ça je ne sais pas. Je sais que 75%, 3 interventions sur 4 sont du secours à personne, secours ou assistance à personne. Après, sur l'augmentation, la diminution ou l'évolution des chiffres, ça, je ne pourrais pas me prononcer. Néanmoins...
Mais vous, votre impression depuis le temps que vous exercez, qu'est-ce qui a changé dans la société ?
On porte assistance, de plus en plus assistance aux personnes. Alors après, est-ce que les gens appellent plus les pompiers ?
Donc aux personnes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens dans la rue démunis, des violences... conjugal, c'est quoi, assistance
à personne ?
Oui,
c'est aussi des accidents, c'est aussi...
accidents aussi médicaux, peut-être ?
Voilà, médicaux ou accidents accident domestiques aussi. Hein.
Il y en a, quelqu'un qui s'est brûlé ou...
Brûlé ou qui s'est pris une charge sur les doigts, qui a la main cassée, enfin ce genre de choses.
Après, donc il va quand même appeler plutôt le pompier que le SAMU.
Il faut savoir qu'en France, on a ce qu'on appelle une triangulation des secours, c'est-à-dire que quel que soit le service que vous appelez, SAMU, pompier... Bien, il y aura toujours quelqu'un qui viendra et ce sera en fonction, en gros, des disponibilités de chaque service où on vous enverra le service le plus adapté, quoi. Alors après, quant à mon impression, globale sur la société, moi, je ne pourrais pas me prononcer. On met tout en œuvre, nos matériels et nos personnels, pour répondre au plus juste aux attentes de la société.
Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus souvent appelé ? Est-ce qu'il y a plus de détresse sociale aujourd'hui ? Enfin, vous voyez bien évoluer la société, vous devez vous rendre compte.
Oui, après, c'est tendanciel. C'est tendanciel. Il y a des fois où on est souvent appelé et des fois où on sera moins sollicité. On ne peut pas établir de règles générales.
D'accord, ok. Et donc, une intervention qui vous a marqué ?
Une intervention qui m'a marqué, c'était un feu d'appartement au début, en pleine nuit, donc pendant lequel on a eu du mal à accéder dans l'appartement et où il a fallu faire un sauvetage, une personne qui était retranchée dans sa chambre et que l'on a pu secourir et extraire grâce à nos techniques et à notre volonté aussi.
Et pourquoi ça vous a marqué ?
Ça m'a marqué parce que malgré le côté un petit peu... typique des sapeurs-pompiers, donc voir un incendie avec des flammes qui sortent des fenêtres et une situation qui paraissait très très compliquée quant aux chances de survie de la personne à l'intérieur, on a quand même pu la sortir, l'extraire. Elle est quand même passée à l'hôpital derrière pour un contrôle, mais néanmoins elle s'en est sortie et c'est le plus important pour nous. Donc c'est vraiment grâce au travail d'équipe, grâce à la formation, grâce à l'entraînement.
Il y a de l'adrénaline à ce moment-là ?
Ah, complètement, oui, bien
sûr. C'est ça qui vous fait avancer ?
Oui, lorsque on parlait avant du bip qui sonnait et de l'alerte qui sonnait, là, on arrête tout ce qu'on fait et on est très concentré sur ce qu'on fait, sur l'intervention qui arrive. Et l'adrénaline, la concentration vont de pair avec la réussite de la mission, complètement.
Mais alors, en tant que plongeur, vous êtes quand même sur des actions comme ça de feu ?
Il y a moins de feu. Non, on fait beaucoup moins de feu sous l'eau. Néanmoins, mais ça peut arriver, certains métaux. C'est sûr qu'en tant que plongeur, on a d'autres missions, mais il faut savoir que les spécialités chez les sapeurs-pompiers sont cumulatives aux missions de base, en fait, aux missions courantes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas substitutives.
Donc le feu, c'est une mission courante, par exemple ?
Voilà, tout ce qui est secours d'urgence aux personnes, tout ce qui est incendie, opérations diverses, ce sont des missions courantes. Et les missions de spécialité sont en plus de nos missions courantes.
Ouais, d'accord.
C'est bien la raison pour laquelle on exige une formation spécifique.
Donc là, ça s'est bien terminé ?
Là, ça s'est bien terminé.
Mais j'imagine que ce n'est pas toujours le cas ?
Non.
Et comment vous réagissez alors ?
Eh bien, c'est là où l'expérience, la fraternité, la formation, l'abnégation aussi font que on va jusqu'au bout de notre mission. Et c'est derrière, après la réalisation de la mission, qu'on se dit là, effectivement, il y a une issue plus dramatique que ce qu'on aurait espéré, effectivement.
Et on arrive est-ce que ça ne vous arrive pas de vous dire, mais c'est comment on peut se mettre dans des situations pareilles, comment on peut agir ainsi, se mettre en danger à ce point-là ? Parfois, vous n'êtes pas agacé, énervé, par rapport à ce que vous voyez ?
Alors, nous, on n'est pas là pour juger de la situation, on ne jugera jamais une situation. On sera toujours là pour effectuer notre mission.
Mais comment vous arrivez à ça ? Vous êtes formé pour ça ?
Oui, oui, bien sûr. On est formé pour ça. Et puis, il y a une certaine... alors, pas distance, mais un certain, justement, professionnalisme qui s'installe avec le temps, une certaine abnégation, et où on réalise nos missions, quelle que soit la situation, et quoi qu'il puisse advenir. En fait, on continuera à exercer nos missions. Alors, bien sûr, on a des avis personnels sur ce qui peut se passer, sur est-ce qu'on aurait pu éviter cet accident, mais ça ne rentre absolument pas en ligne de compte dans l'exercice de nos interventions.
Une fois que vous êtes en tenue, en fait, vous êtes une autre personne.
Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait.
Voilà. Et ça, on arrive à le faire tout au long de sa carrière ? La carapace, elle craque pas ?
Oh, jusqu'à présent, elle ne craque pas.
Non.
Il y a eu quelques fissures parfois, mais elles ont été réparées.
C'est vrai ? Vous avez des doutes ?
Alors, pas des doutes, mais des difficultés, oui, bien sûr. Être face à des échecs, bien, ça remet en question, et ça force aussi à devenir meilleur. Et alors, en intervention, on s'est déjà dit, là, va falloir se retrousser les manches et il va falloir y aller. Non, ça, c'est sûr. Hein, c'est sûr qu'il y a des interventions plus difficiles que d'autres. Mais on sait qu'on peut se faire confiance. On peut, entre nous, hein, individuellement et entre nous, on peut faire confiance à notre matériel. Et une fois que là, l'ordre est lancé, on a confiance en nos chefs.
Alors justement, par rapport à ça, sur une intervention, il y a un chef, il y a quelqu'un qui décide, qui organise l'intervention, qui est sur place.
Voilà, il y a quelqu'un qui commande l'intervention, qu'on appelle le commandant des opérations de secours, le COS. Et donc, c'est cet officier de sapeur-pompier qui va coordonner les différents engins de l'intervention. Par exemple, sur un feu d'habitation, vous aurez plusieurs composantes à traiter. La composante du feu, bien sûr, la composante du secours aux personnes, l'assistance aux personnes. Parfois, il faudra trouver de l'eau. Quand c'est au fond de la vallée de la Bruge, parfois, il faut trouver de l'eau. Voilà. Et donc, toutes ces composantes appellent autant d'engins qui vont être déplacés sur les lieux. Et afin de coordonner tous ces engins, l'échelle, le véhicule d'incendie, l'ambulance, il va falloir un officier de sapeur-pompier qui sera là pour prendre le commandement et coordonner l'action de ces différents intervenants.
Donc vous êtes officier aujourd'hui ?
Tout à fait, je suis officier depuis 5 ans.
Donc vous managez comme ça des interventions ?
Alors on commande des interventions. Le côté management, c'est en dehors des interventions, et sur intervention, on commande un dispositif de secours.
Oui, bon, c'est une question de mots.
C'est-à-dire que
allez organiser donc sur place tous les effectifs, toutes les actions, s'il faut appeler la police, s'il faut appeler le SAMU, si, etc. Oui, c'est vous qui allez tout orchestrer, en fait. Vous êtes chef d'orchestre de l'intervention.
Voilà, tout à fait. Oui. Et à savoir qu'on travaille, donc ça, c'est l'intervention, c'est la finalité, mais en amont, on a le centre de traitement de l'alerte, hein, les personnes qui répondent au 18, qui, elle aussi, anticipe ce qui peut se passer sur un accident de la route, sur un incendie dans une maison, et qui prévoit les moyens nécessaires sur intervention, et qui anticipe bien en amont.
Donc, avant, elle a déjà prévu, cette personne-là, combien de véhicules, combien d'hommes, etc.
Exactement. S'il faut des véhicules spécifiques, par exemple, pour le risque chimique, s'il faut les plongeurs, eh bien, c'est cette personne, au décroché, ce qu'on appelle le décroché du 18, qui, en fonction des informations données par l'APLAN, va organiser le départ des sapeurs-pompiers, des moyens de secours, et prévenir également le SAMU, EDF, le gaz de Strasbourg.
D'accord.
Voilà, tous les services.
La logistique, en fait. Et cette personne-là, elle est sapeur-pompier ou elle a une autre formation ?
Elle est sapeur-pompier, oui.
D'accord.
Sapeur-pompier, et donc il travaille au CTA, ce qu'on appelle le centre de traitement d'alerte, et c'est le premier maillon de l'organisation de la chaîne des secours.
Donc ça, c'est hyper important.
Ah, c'est fondamental.
Fondamental. Ouais. Donc ça, c'est des gens que vous connaissez ? Vous les connaissez ?
Oui, ce sont des collègues qui, avant, après, seront en caserne.
Donc, ils ont toujours eu un passage sur le terrain ?
La plupart, oui, tout à fait. Oui. Ils ont toujours eu un passage sur le terrain et c'est vraiment important d'être expérimenté pour accéder à ces fonctions de ce qu'on appelle opérateur au centre de traitement de l'alerte.
D'accord. Donc, eux, c'est eux qui vont sonner la grande sonnerie ? L'alarme,
qui
vont déclencher l'alarme.
C'est eux qui appuient sur le bouton rouge.
C'est eux qui appuient sur le bouton rouge.
Oui. Alors, il n'y a pas de bouton rouge. C'est informatisé, il y a d'autres procédures. Néanmoins, c'est eux qui nous déclenchent, tout à fait.
D'accord. Voilà. Donc, eux reçoivent l'appel, ils traitent l'appel.
Oui.
Ils organisent la logistique avant de vous appeler, ou en même temps, peut-être.
Alors, logistique, on pense au camion de Knack et à la pizzeria qui va arriver, mais
non.
C'est tout ce qui est service concourant. Donc, les partenaires extérieurs,
oui.
Les maires aussi, hein, les maires des
prévenir,
les autorités municipales. Ben voilà, là, il y a un gros feu. Il faut, en général, les maires aiment bien être au fait des interventions sur leur territoire, sur leur commune, et se déplacent pour éventuellement travailler en, avec nous, quoi, hein, tout à fait.
D'accord. Et donc là, elle appuie sur son bouton rouge virtuel.
Oui.
Vous, ça sonne dans la caserne et vous, vous êtes prêt.
Voilà.
Et vous arrivez.
Et on arrive, c'est aussi simple que ça. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler les numéros indispensables à connaître hein, pour les secours. Donc le 18, ça tout le monde connaît, ce sont les sapeurs-pompiers. Le 17, la police. Le 15, le SAMU. Et donc en Europe, il y a le 112, qui est un numéro d'urgence également, qui permettra de joindre les services d'urgence. Et il y a aussi, un peu moins connu, le 114, qui est le numéro d'urgence pour les personnes sourdes et muettes.
Ah ok, je ne connaissais pas. Très bien. C'est nouveau ? Non,
c'est pas nouveau. Non, ça fait quelques années que c'est en place. Et donc, c'est un système qui fonctionne par SMS. Ils ont une plateforme, la plateforme est à Grenoble. Et ils ont un système par SMS qui permet de communiquer avec le requérant.
D'accord. Et alors, parfois, c'est la police qui vous appelle ?
Oui.
Ça ne vient pas toujours par les pompiers, je veux dire.
Non, ça peut venir
du SAMU,
de la police. Oui, tout à fait, d'autres services d'urgence. Qui peuvent nous dire, attention, là, on a repéré quelque chose, on a besoin de vos services. Et donc, on se déplace au même titre que si c'était quelqu'un, une personne lambda qui nous appelait.
D'accord. Alors, vous aviez également été sur l'attentat de Strasbourg. Donc, vous étiez intervenu comment ?
Alors, moi, je n'étais pas de garde ou d'astreinte ce soir-là. Quand on a su ce qui se passait, on est beaucoup allés au centre à Cronenbourg, en fait, pour voir s'il y avait besoin de nous. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. On a eu beaucoup de monde sur le terrain, ça a été l'occasion de mettre en application nos procédures. On avait travaillé en amont et donc ça a été une soirée assez dont on se souvient.
Ouais, j'imagine.
À titre individu, enfin à titre privé comme à titre.
Donc même quand on n'est pas de garde, même quand on est en repos, on est quand même toujours engagé, quoi.
Oui, je pense que c'est ce qui caractérise aussi l'engagement quand on est sapeur-pompier, volontaire ou professionnel, c'est que on a avant tout la volonté et l'envie de servir, de porter assistance et d'être là quand il y a besoin de nous. Et du coup, dans ce genre de situation, on se pose pas la question de savoir si on doit y être ou pas, on y va
on
verra après.
Ouais, ouais.
Alors attention, hein, encore une fois, c'est pas de la précipitation ou de l'inconscience, c'est juste que de dire, moi j'ai des... J'ai des capacités, on peut avoir besoin de moi.
Je suis préparé pour, ouais.
Je suis prêt, je suis là, et s'il y a besoin, on intervient.
Ouais. Il n'y a pas un moment donné où on se fatigue, on en a assez de ça, d'être toujours au service des autres, et puis de voir que ben on entend beaucoup de pompiers caillassés, de pompiers qui se font agresser. Comment on réagit par rapport à ça ?
Alors cette lassitude, moi je peux pas en parler trop parce que ça m'est pas encore arrivé. Notre métier est très diversifié et permet de voir tellement de situations différentes que...
C'est le plus beau métier du monde pour vous ?
Bah oui, puisque je le fais. Non. Enfin, y a d'autres très beaux métiers, attention, et tout aussi utiles. Hein. Mais néanmoins, oui, c'est un métier dans lequel je me sens pleinement épanoui, pour lequel il y a un résultat tangible et quantifiable, et c'est ce qui est aussi important. Quant aux agressions envers les sapeurs-pompiers, c'est sûr qu'on ne reçoit pas que des dessins des classes et d'élèves, c'est sûr, on reçoit aussi parfois d'autres choses.
Vous recevez parfois des lettres d'injures ?
Non, mais quand il y a des dessins d'enfants ou des lettres de remerciement, ça nous fait extrêmement plaisir et ça valorise le travail qu'on fait tout au long de l'année, c'est extrêmement gratifiant pour nous. Néanmoins, lorsqu'on est victime d'agression, que ce soit ponctuel ou organisé, c'est clair que nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment on peut s'en prendre ainsi aux sapeurs-pompiers, alors qu'on est là pour porter assistance à la population. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on condamne fermement ces incivilités et qu'on dépose systématiquement plainte envers les auteurs des agressions, que en général, c'est assez sévère.
Parce que vous êtes toujours gentils, les pompiers. Vous mettez pas de PV, vous arrêtez pas les gens.
Non, on met pas de PV, on n'arrête pas les gens.
Donc il n'y aurait pas vraiment de raison de vous détester.
Non, bien sûr que non. Mais je pense que fondamentalement, peu de gens nous détestent. Voilà, de manière générale, on répond aux agressions par la condamnation systématique. Mais sur place, il faut savoir qu'on sera toujours là pour faire nos missions et qu'on.
Donc vous restez de marbre quoi qu'il arrive.
On effectuera nos missions quoi qu'il arrive.
C'est ça qui est impressionnant, je trouve. C'est même si c'est une situation qui vous semble complètement incroyable, sur laquelle finalement vous vous dites qu'ils ont qu'à se débrouiller, j'en sais rien, on ressent ça, j'en sais rien, mais non.
Alors, il y a bien sûr, on ira jusqu'au bout s'il le faut. Il y a, en cas de danger grave et imminent, pour la santé des intervenants, pour la sécurité des intervenants, des situations où il faut qu'on rende compte et qu'on effectue ce qu'on appelle un repli opérationnel. C'est-à-dire qu'il se peut qu'un détail de l'intervention ait échappé justement au chef de l'intervention. Et donc du coup, là, c'est aux équipiers, à chaque intervenant, de dire « attention, là, il y a un élément qui est très dangereux, qui met en péril ma vie ». Donc, à ce moment-là, on prend les décisions d'intervention les plus adéquates.
Oui, c'est ça. Ouais, donc, ouais. Là, à ce moment-là, vous pouvez faire demi-tour.
Voilà, là, à ce moment-là, on peut faire demi-tour. C'est une question de balance bénéfice-risque entre est-ce que s'il faut sauver une vie, là, c'est clair qu'on ne se posera pas de questions. Par contre, si c'est pour sauver un canapé, bon, bah là, c'est sûr.
C'est pour ça que vous avez changé votre devise, c'est courage et dévouement plutôt que sauver ou périr.
Alors, on a changé, pas pour tout le monde. Il me semble que c'est toujours la devise de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pompiers militaires. Hein.
Oui, alors ça, vous m'expliquerez aussi la différence entre le pompier militaire et vous n'êtes pas militaire.
Non, nous ne sommes pas militaires, nous sommes des pompiers professionnels civils. Et donc, du coup, on a changé de devise il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, notre devise est courage et dévouement. Courage, puisque pour affronter nos missions quotidiennes, pour exercer des interventions particulières, puis dévouement concernant toute la préparation autour de l'intervention, le temps que ça prend, l'investissement que ça nécessite. Cette vie, en fait, a tourné vers notre profession ou notre activité de sapeur-pompier volontaire. Alors, quant aux différents statuts, justement, en France...
Donc, les militaires, c'est sauver ou périr.
Il me semble que la brigade a gardé cette
devise.
Cette devise, oui. Quant à leur statut, donc leur statut est militaire.
Donc ça, c'est les pompiers de Paris et de Marseille.
De Paris et de Marseille, voilà. Il y a aussi des pompiers militaires de la sécurité civile, des unités de sécurité civile. Ils sont à peu près 13 000 en France. Il y a ensuite les sapeurs-pompiers professionnels, donc comme moi, qui exerçons leur métier et embauchés par le service d'incendie et de secours au niveau territorial. On est environ 40-41 000 en France. Et enfin, les sapeurs-pompiers volontaires qui exercent leur activité en plus de leurs études ou de leur profession. Et il y a à peu près 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. Et il y a aussi des sapeurs-pompiers privés qui sont beaucoup moins nombreux, mais qui sont par exemple dans les services, dans les zones aéroportuaires, dans les aéroports ou dans certaines industries très spécifiques.
Donc là, ils sont employés par l'entreprise, mais ils ont une formation de sapeurs-pompiers.
Exactement, ils ont des missions d'incendie, de secours à personne. Ouais. Mais au sein de la structure, c'est ça.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui aurait envie, parce que bon, c'est toujours un métier qui fait rêver les enfants, hein, donc qui aurait envie de devenir... Alors c'est marrant parce que j'ai lu que c'était toujours un métier qui faisait rêver les enfants, et pour autant, vous me dites que vous recrutez, donc ça veut dire qu'il y a moins de gens qui s'engagent aujourd'hui ?
Non, je ne dirais pas ça, il n'y a pas moins de gens qui s'engagent, néanmoins, on veille à maintenir des effectifs stables, et à maintenir un nombre de personnes en activité qui soit compatible avec...
Il y a un âge d'ailleurs, il y a un âge limite ?
16 ans, 16 ans. C'est l'âge
alors pour
minimal.
Rentrer et pour sortir ?
Ah bah pour sortir, non, c'est l'âge de la retraite. C'est 60.
Ah donc à 64 ans, on ne va peut-être pas grimper au 10e étage ?
Alors l'âge exact de la retraite, ça dépend des compensations qu'on a. Moi je sais que par exemple avec la plongée, on a des trimestres en moins, voilà, donc c'est compensé. Mais globalement, la progressivité des missions fait en sorte que passé un certain âge, on n'est plus porte-lance. On ne va plus.
D'accord, donc il y a des actions qu'on ne fait plus en fonction de l'âge.
Voilà, on devient chef d'agrès, ce qu'on appelle, c'est la personne qui va commander un véhicule. Donc les missions ne seront plus les mêmes. Ce sera déjà du commandement et d'avoir un peu de recul sur l'intervention.
Donc un jeune, vous lui conseilleriez quoi ? Qui veut devenir pompier ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme capacité, comme caractère ? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques ?
Pour devenir sapeur-pompier, ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de bien se renseigner avant sur ce qu'on fait, sur comment on est organisé. Il faut être évidemment motivé, disponible. Il faut aimer l'action, être en bonne forme physique. Et il faut avoir l'esprit d'équipe et avoir la volonté de se mettre au service des autres pour des missions d'urgence.
Voilà. Donc il y a, un côté très altruiste au départ.
Alors c'est un engagement citoyen, c'est sûr.
Non mais ça, on le devient, mais, voilà. Mais je veux dire au départ, quand on rêve de se dire tiens, je voudrais être pompier, est-ce que ce sont des gens qui d'abord ont l'amour des autres, ont peut-être cette envie d'aider toujours, de soutenir
Alors,
Comment vous détectez chez un jeune qu'il fera un bon pompier ?
Bien, c'est quelqu'un qui a envie de mettre ses compétences qu'il n'a ou qu'il acquérera plus tard au service de la population. Et c'est quelqu'un qui aura, permettez-moi l'expression, la tête sur les épaules, qui saura ce qu'il fait et qui, surtout, aura anticipé ce qu'il verra sur intervention. Parce qu'une fois qu'on est opérationnel, on est lâché sur toutes les interventions. Et donc, du coup, là, il faudra vraiment qu'il soit en capacité de réaliser les interventions pour lesquelles il se sera préparé.
Mais est-ce qu'au départ, il faut... parce que bon, on pourrait imaginer quelqu'un qui a envie d'action, c'est l'adrénaline qui le fait avancer, vous voyez, un foufou, comme vous disiez tout à l'heure, quand on était jeune, on était foufou, qui ne voit pas forcément le danger. Mais ça, justement, c'est dangereux.
Oui, alors c'est dangereux. Encore une fois, on ne veut pas de tête brûlée ou de précipitation. Il faut quand même une certaine dose d'adrénaline et d'action, en fait, pour il faut aimer ce genre de situation. Mais après, les gens qui font ça en étant irresponsables ou qui mettent en danger leur propre sécurité ou la sécurité des victimes, voilà, on a des techniques qui permettent de détecter ça très tôt et qui nous permettent à ce moment-là soit de réorienter la personne ou d'essayer de la former, d'essayer de lui faire adhérer à notre état d'esprit et les missions qu'on va lui demander de réaliser. Et puis, si vraiment ça va pas, en général, les personnes se rendent compte d'elles-mêmes que on n'est pas des têtes brûlées chez les sapeurs-pompiers.
Ouais.
On réfléchit et après on agit.
Ça vous est déjà arrivé, ça, d'avoir dans l'équipe une tête brûlée et puis de devoir finalement faire encore plus attention ou...
Non. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui agissait sans réfléchir avant.
Il faut quand même beaucoup de maturité, j'ai l'impression, en vous écoutant. Quand vous avez commencé à 23 ans, ça devait être quand même.
Oui,
compliqué.
Alors il faut quand même beaucoup de maturité, sachant que... Alors après, ça dépend, c'est variable d'un individu à l'autre. Moi, je sais que avant cet âge-là, j'avais d'autres aspirations, j'aurais pas été assez mature pour m'engager comme sapeur-pompier, du moins professionnel ou volontaire, mais certaines personnes à 16 ans sont tout à fait capables de se former et d'intervenir derrière. Alors, on a des formations qui préparent à ça avant 16 ans, de 12 ans à 16 ans.
Ah oui, jeune. Ouais.
Alors, c'est très jeune, mais ils ne partent pas sur intervention.
Oui.
Par contre, ils se familiarisent avec nos matériels, avec notre organisation, notre formation, notre fonctionnement. Donc, de 12 à 16 ans, c'est ce qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont environ 800 dans le département du Bas-Rhin. Et à 16 ans, on peut contracter ou non un engagement de sapeur-pompier volontaire. C'est sûr que ça paraît jeune comme ça. On est bien formé, on est encadré. Et on essaye quand même d'avoir une certaine progressivité dans les missions qu'on nous donne, et notamment sur le terrain, où on sera beaucoup plus attentif à des jeunes recrues qu'à des gens expérimentés. Et on sera vraiment... C'est là où l'esprit d'équipe et où le groupe prend tout son sens.
Oui, parce qu'à 12 ans, on peut peut-être voir des choses qui sont traumatisantes.
Bah, à 12 ans, on ne les voit pas.
Mais à 16 ans même.
Bah, à 16 ans, oui, c'est sûr. C'est sûr.
Parce que là, tout a l'air beau, etc. Mais je présume que quand on est sur un accident de la route, qu'il faut enlever des corps, etc., ça doit vous marquer, non ?
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une composante qui fait partie intégrante de notre activité. Et c'est la raison pour laquelle je disais avant qu'il fallait vraiment savoir ce dans quoi on mettait les pieds, quoi.
Ouais.
On devient sapeur-pompier. Mais après, attention, il y a ce côté négatif, mais il y a aussi beaucoup de satisfaction et de gratification à être sapeur-pompier. Réussir la mission qu'on nous a demandé, voir qu'on a réussi à sauver quelqu'un, à faire qu'il trouve une solution, à désembourber un cheval l'hiver dans de la boue, c'est une mission qui est à la fois compliquée, le cheval souffre, et il faut quand même le sortir. Donc de réussir à aller jusqu'au bout de ces missions, c'est quand même extrêmement gratifiant. Et on a beaucoup plus de raisons de se réjouir de l'issue des interventions
que l'inverse.
Ouais.
Dans votre quotidien, c'est plus du bénéfice que de la tristesse.
Bien sûr, oui. Sinon, je pense qu'on ne serait plus beaucoup à faire ce métier.
Alors bon, vous faites aussi un petit peu de formation pour aider un petit peu la population à savoir quels sont les gestes qui sauvent, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil par rapport à ça ?
Alors, il y a effectivement des formations quant aux gestes qui sauvent. Alors, mais je dirais que donc pour ça, j'invite les gens à venir consulter le site des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, donc le sdis67.com, ainsi que le site de la préfecture du Bas-Rhin, dans lesquels il y a toutes les associations agréées de sécurité civile qui forment à ces gestes de premier secours. Mais le message qui est important de comprendre et de faire passer, c'est que déjà, il faut savoir appeler les secours. Il faut savoir ce qu'on dit lorsqu'on compose le 18 ou le 15, quand on appelle le SAMU. Et il y a trois principes quand on assiste à un accident ou à un incident ou à un malaise. C'est protéger, alerter, secourir. Se protéger, ne pas s'exposer, par exemple, sur l'autoroute ou autre. alerter le bon service d'urgence, donc connaître les numéros d'urgence en France, et enfin secourir si, d'une part, on a les connaissances de secourisme, et d'autre part, qu'on s'en sent capable. Ça, c'est très important. Quant à l'appel au 18, il est important de dire qui on est, où on se trouve, puisque sans adresse, nous, ça va être compliqué d'intervenir dans un endroit. Donc, où on se trouve, qu'est-ce qui se passe, si c'est un accident de la route, si c'est un incendie, si c'est un malaise, si c'est un arrêt cardiaque. Et enfin...
Mais comment on sait ? Alors, je vais vous donner une expérience personnelle. Un jour, je marchais sur les quais de Strasbourg et je vois un monsieur sur un banc qui avait l'air de dormir, sauf qu'il avait la cigarette qui pendait à la bouche. Donc, je voyais bien qu'il ne bougeait pas du tout. Donc, j'avais... Même qu'il ne respirait pas. Donc, je me suis affolée. J'ai appelé les pompiers parce que ma première idée, c'était les pompiers. Comme je vous disais tout à l'heure, on a toujours l'impression qu'on les appelle pour tout. Et au téléphone, on me dit secouez-le. Mais moi, j'avais peur de le toucher. Et la seule chose que me disait la personne, c'est secouez-le, bougez-le, pour voir en fait. Et je me suis dit, mais si je le secoue et qu'il tombe, vous voyez, enfin...
Oui, bien sûr, mais après, alors...
Comment on se sent capable ? Vous voyez, vous dites se sentir capable d'agir, mais...
Alors, appeler les services d'urgence, c'est déjà un premier pas. Et là, par exemple, je comprends votre appréhension. C'est pas naturel de secouer quelqu'un ou de voir si quelqu'un est vivant, tout simplement.
Ben oui.
Qu'on ne connaît pas, qu'on voit pour la première fois dans un lieu public. C'est tout sauf naturel et on comprend parfaitement.
Bon, au final, je l'ai secoué et je l'ai réveillé.
Voilà. Mais donc, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas justement se dire chacun, eh bien, au lieu d'appeler tout de suite les services d'urgence, je vais quand même aller voir avant si cette personne ne dort pas tout simplement. Et si effectivement elle ne se réveille pas après que je l'ai stimulée, appeler les services compétents. Mission première, c'est le secours d'urgence. Et là, si la personne dormait, il n'y avait pas de notion d'urgence.
Il y a beaucoup d'appels qui en fait, servent à rien ou qui... Vous vous déplacez souvent pour rien ?
Justement, les personnes qui travaillent au centre de traitement de l'alerte...
Oui, c'est leur job.
Ils font déjà un filtre qui est très important. Pas dire c'est par le grain de livret, mais disons que il y a parfois des appels qui ne sont pas justifiés ou qui sont des canulars ou qui sont savoir que c'est puni par la loi.
Il y en a beaucoup.
Les services d'urgence d'appeler les services d'urgence qui ne alors qu'il n'y a pas de notion d'urgence.
Il y a beaucoup de canulars.
Ça arrive. Arrive régulièrement. Il y en a pas 20 par jour, mais ça arrive régulièrement. On enregistre tous les numéros de téléphone et on peut obtenir les coordonnées. C'est sanctionné par la loi. Et puis après, malheureusement, des fois, ça arrive que l'on se déplace sur intervention et que on soit déplacé pour rien. Mais je vous dirais qu'il vaut mieux se déplacer pour rien que de ne pas intervenir alors qu'il y a un problème majeur.
Ouais, c'est clair. Mais bon, vous voyez, c'est on a quand même toujours. Enfin, on se dit, j'appelle au cas où. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pas pour rien, mais qui appellent parce qu'ils sont convaincus que vous pourriez les aider.
Alors, il vaut mieux appeler au cas où, c'est sûr. Si on ne sait pas, c'est qu'on ne peut pas vérifier, donc là, il vaut mieux nous appeler. Nous, on saura mieux que personne dire si ça vaut le coup ou pas.
Ouais,
de toute façon, on aura, comme dit, des équipes prêtes à intervenir, des engins prêts à sortir sur intervention. Donc, ce sera au pire à nous de lever le doute. Plutôt que de dire,
Et donc, en termes de formation pour les citoyens lambda, qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous conseillez peut-être ?
Il y a plein d'associations agréées de sécurité civile qui proposent des gestes de premier secours, qui proposent de la manipulation d'extincteurs, qui proposent ce genre de formation.
On devrait tous le faire, quoi, comme le permis de conduire.
Je suis entièrement d'accord. C'est sûr que c'est des formations qui sont à la fois bénéfiques pour chacun dans sa vie privée que de sa vie professionnelle. Vous savez qu'il y en a trois chiffres, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Un feu, en 30 secondes, on l'éteint avec un verre d'eau. 1 minute après, il faut un extincteur. Et 2 minutes après, il faut un camion incendie.
Ah oui.
Donc, c'est vraiment très important d'avoir ces gestes de secourisme, de connaître ces gestes de secourisme et de connaître ce genre de matériel comme des extincteurs. Et donc là, il y a plein d'associations de sécurité civile qui forment...
Donc ça, c'est un conseil vraiment que vous donnez à tous ceux qui nous écoutent de se former, de savoir utiliser un extincteur, peut-être faire les gestes de premier secours.
Oui. On sera toujours là, mais aidez-nous.
Oui, c'est ça. c'est ça. Mais ça, on ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas à l'école. On ne l'apprend pas quand on passe le permis.
On a des formations dans le Bas-Rhin. On forme tous les ans 10 000, près de 10 000 collégiens aux gestes qui sauvent. C'est une action qu'on fait dans le Bas-Rhin. Et donc, on forme à des classes de 3e je crois, des jeunes sur tout ce qui est gestes de premier secours, organisation de la sécurité civile en France. Et on l'espère faire naître des vocations.
Des vocations. C'est une vocation d'être pompier ?
Ah oui, je crois, c'est nécessaire.
Alors, Valentin, ce podcast s'appelle Le Podium. Le podium, aujourd'hui, vous êtes en haut du podium. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium ? On n'a pas parlé un petit peu de votre enfance. Vous aviez des parents qui étaient peut-être déjà orientés vers ce type de métier, d'aider les autres ou autre ?
Alors, mon père était infirmier, donc
Il y a quand même quelque chose.
Oui. Mais ma mère travaillait pour l'université.
Vous devez être fiers, vos parents, quand même.
Ils sont fiers, oui. Fiers et inquiets. c'est plus le sentiment de fierté qui domine.
Ils ne savent pas quand vous êtes en mission.
Non. Ils ne savent pas quand je suis en mission. Ils le savent après coup, heureusement, parce que sinon, ça serait très compliqué à gérer au quotidien.
Vous êtes marié ?
Je suis marié, oui.
Et votre épouse, elle supporte ?
Oui, elle supporte. Elle a compris notre fonctionnement. Elle connaît, elle sait qu'on est formé, elle sait qu'on est équipé.
Enfin, elle ne doit quand même pas vraiment bien dormir quand elle sait que vous êtes
en
action.
Non, c'est sûr. Et c'est pour ça que sur le podium, je souhaitais faire monter. J'aurais les compagnes et compagnons de tous les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin et de France.
Oula, ça fait beaucoup de monde.
Ça fait beaucoup de monde. Ouais, je crois que vous avez un grand podium, mais. Et également, tous les services supports qui, grâce à leur travail, permettent aux sapeurs-pompiers d'intervenir tout le temps en sécurité.
Les services supports, c'est quoi alors ?
C'est tout ce qui est services de maintenance, les gens qui vérifient les engins et sans qui on ne pourrait pas exercer nos missions.
Oui, c'est une chaîne de solidarité, hein,
c'est une chaîne de
autour
solidarité.
De tout ça. Et chacun doit se faire confiance pour qu'au moment où on soit sûr que tout est en ordre, que tout fonctionne, qu'il n'y a pas un trou dans la lance.
Exactement, ou dans la lance, ou dans le tuyau, pour le coup.
Dans le tuyau.
Bon, ça arrive, mais on a des techniques pour changer de tuyau, mais voilà.
Et c'est une grande famille, les pompiers, c'est-à-dire avec les épouses et tout, vous voyez, vous êtes, tout le monde se connaît.
Les amicales de sapeurs-pompiers sont assez actives, et tous les ans, il y a des balles du 13 juillet chez les sapeurs-pompiers, il y a la Sainte-Barbe qu'on célèbre tous les ans, qui a lieu plus tard dans l'année.
Ok, donc sur le podium, il y a les familles, c'est ça ? Voilà, tous ceux qui font en sorte que vous puissiez bien faire votre métier.
Exactement.
Et vraiment arriver à sauver les autres.
Voilà.
Merci beaucoup, Valentin.
Je vous en
merci
prie.
Merci beaucoup, c'était
merci
passionnant.
De m'avoir
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.